Chapitre 4, qui démontrera combien une femme est un avocat dangereux quand elle emploie son éloquence à faire réussir un mauvais dessein. Quand Lady Bellaston eut écouté le scrupule du jeune lord, elle les traita avec le même dédain avec lequel un de ces sages des tribunaux, qu'on appelle avocat de Newgate, traite les scrupules d'un jeune témoin. « Mon cher lord, lui dit-elle, vous avez sûrement besoin d'un remontant. Il faut que j'envoie chercher pour vous quelques gouttes du meilleur cordial de Lady Edgley. » »« Fi donc, ayez plus de résolution. Êtes-vous effrayé du mot « viol » ou craignez-vous ? Je vous assure que si l'histoire d'Hélène était moderne, je la croirais hors de nature. Je veux dire la conduite de Paris et non la passion de la dame. Car toutes les femmes aiment un homme de courage. Il y a encore une autre histoire des dames Sabines. Et celle-là aussi, grâce au ciel, est fort ancienne. Vous admirerez peut-être mon érudition, milord, mais M. Hooke nous dit, je crois, qu'elles devinrent ensuite d'assez bonnes épouses. Aussi peu de femmes de ma connaissance ont-elles été enlevées par leur mari. Chère Lady Bellaston, ne me tournez pas ainsi en ridicule. Bon, et croyez-vous, mon cher lord, qu'il y ait une seule femme en Angleterre qui ne se moquât de vous dans le fond de son cœur, quelque pruderie qu'elle osa montrer sur son visage? Vous me forcez à me servir d'un étrange langage et à trahir mon sexe de la manière la plus abominable. Mais il me suffit de savoir que mes intentions sont bonnes et que je fais mon possible pour rendre service à ma cousine. Car, malgré tout cela, je pense que vous serez pour elle un bon mari. Sinon, je vous le jure, je me garderai bien de lui conseiller de se sacrifier uniquement à l'espoir d'un titre. Je ne voudrais pas qu'elle eût à me reprocher de lui avoir fait perdre un homme de courage, car les ennemis de ce rival, d'ailleurs indignes d'elle, conviennent qu'il en a beaucoup. Que ceux qui ont eu occasion d'entendre de la part de leur femme ou de leur maîtresse des réflexions de cette nature déclarent si elles sont le moins du monde adoucies en passant par la bouche d'une femme. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles pénètrent plus profondément dans l'âme de Milord que tout ce que Démosthène et Cicéron auraient dit en pareilles circonstances. Lady Bellaston, s'apercevant qu'elle avait enflammé l'orgueil du jeune lord, appela, comme un véritable orateur, d'autres passions à son secours. « Milord, dit-elle d'une voix plus grave, vous aurez la bonté de vous souvenir que c'est vous qui m'avez parlé le premier à ce sujet. Je ne voudrais pas que vous me regardiez comme cherchant à vous embarrasser de ma cousine. 3 000 livres de rente n'ont pas besoin d'avocat, et se recommandent suffisamment d'elles-mêmes. Miss Weston n'a pas besoin de la recommandation de sa fortune, car, suivant moi, nulle femme n'eut jamais la moitié de ses charmes. « Oh, oh, milord, reprit Lady Bellaston, en se regardant dans la glace. Il y a eu des femmes, je vous assure, qui ont eu plus de la moitié de ses charmes. Non qu'assurément je veuille la déprécier à cet égard. C'est une fille charmante, rien de plus certain. Et avant peu d'heures, elle sera dans les bras de quelqu'un qui sûrement ne la mérite pas. Quoiqu'en lui rendant la justice qui lui est due, je le crois un véritable homme de courage. Je le souhaite ainsi, madame, quoique je doive convenir qu'il ne la mérite pas. Car à moins que le ciel ou vous ne me soyez contraire, c'est dans mes bras qu'elle sera avant le temps d'en vous parler. Bien dit, milord. Je vous promets qu'aucun obstacle ne s'élèvera de ma part. Et je suis convaincu que dans le cours de cette semaine, je vous appellerai publiquement mon cousin. » Le reste de cette scène se passa entièrement en ravissements, en excuses et en compliments très agréables, sans doute à entendre la bouche des parties intéressées, mais dont le récit ne pourrait être qu'extrêmement insipide. Nous mettrons donc ici un terme à ce dialogue, et nous nous hâterons d'arriver à l'heure fatale, où tout était préparé pour la perte de la pauvre Sophie. Mais cet événement étant le plus tragique de toute notre histoire, nous en rendrons compte dans un chapitre particulier. Chapitre 5. Contenant des faits dont quelques-uns pourront intéresser et d'autres surprendre le lecteur. L'horloge venait de sonner 7 heures, et la pauvre Sophie, seule et mélancolique, était assise dans son fauteuil, occupée à lire une tragédie. C'était le fatal mariage, et elle en était à la scène où la pauvre malheureuse Isabelle se débarrasse de son anneau nuptial. À cet endroit, le livre lui tomba des mains, et son sein fut en un moment inondé d'un torrent de larmes. Il y avait une minute qu'elle était dans cette situation, quand la porte s'ouvrit et Lord Fellamar entra. À son aspect, Sophie se leva précipitamment de son fauteuil, et Milord, après avoir avancé quelques pas et lui avoir fait une profonde révérence, dit « Je crains, Miss Weston, d'être entrée un peu trop brusquement. » « Je dois avouer, Milord, que je suis un peu surprise de cette visite inattendue. » « Si cette visite était inattendue, madame, il faut que mes yeux aient été de bien infidèles interprètes de mon cœur, la dernière fois que j'ai eu l'honneur de vous voir. Car, sans doute, vous n'avez pas pu espérer que vous resteriez en possession de mon cœur sans recevoir une visite de celui à qui il appartient. » Sophie, toute confuse qu'elle était, répondit à tout ce pathos par un regard de dédain aussi inconcevable que bien mérité, à mon avis. Milord continua sur le même ton sans s'arrêter. Sophie, tremblante, l'interrompit à la fin. « Dois-je croire, lui dit-elle, que vous avez perdu tout à fait le sens ?»« Assurément, Milord, il n'y a pas d'autre excuse à une pareille conduite. »« Je suis en effet, madame, dans l'état où vous me supposez, et vous me pardonnerez sans doute les effets d'une frénésie dont vous êtes la cause, car l'amour m'a tellement privé de ma raison que je peux à peine répondre d'aucune de mes actions. Sur mon honneur, Milord, je ne comprends pas plus vos discours que votre conduite. Permettez-moi donc, madame, de vous expliquer l'une et l'autre à vos pieds, en vous ouvrant mon âme et en vous déclarant que je vous aime jusqu'à l'idolâtrie. Oh, la plus adorable des femmes, divine créature, quel langage pourrait jamais exprimer les sentiments de mon cœur ? Je vous assure, Milord, que je vais me retirer pour ne pas entendre plus longtemps un pareil discours. Ne pensez pas me quitter aussi cruellement. Ah, si vous pouviez sentir la moitié des tourments que je souffre, votre cœur sensible aurait compassion des maux que vos yeux ont causés. » Puis, poussant un profond soupir et s'emparant de sa main, il continua pendant plusieurs minutes à parler dans un style qui ne plairait guère plus au lecteur qu'il ne plaisait à Sophie, et finit par lui déclarer que s'il était maître du monde, il le mettrait à ses pieds. Sophie, lui retirant alors avec force sa main de la sienne, lui répondit du ton le plus animé « Je vous proteste, monsieur, que je rejetterai avec un égal mépris et votre monde et son maître. » Elle voulut ensuite sortir, mais Lord Fellamar, s'emparant une seconde fois de sa main, lui dit « Pardonnez, mon cher ange, des libertés que le désespoir seul peut me porter à prendre. Croyez-moi, si j'avais pu avoir la plus légère espérance que vous eussiez accepté mon titre et ma fortune, que j'ose croire dignes l'un et l'autre de quelque considération, à moins qu'on ne les compare avec votre mérite, je vous les aurais offerts de la manière la plus humble. Mais je ne puis consentir à vous perdre. Je consentirais plutôt à perdre la vie. Vous êtes... Vous devez être à moi. Vous y serez uniquement. Milord, je vous supplie de vous désister d'une vaine poursuite. Je ne veux plus rien entendre sur ce sujet. Laissez ma main, Milord, car je suis déterminé à vous quitter sur le champ et à ne vous revoir jamais. Alors, madame, vous m'obligez à tirer le plus grand avantage qui me sera possible de la circonstance où je me trouve, car je ne peux ni ne veux vivre sans vous. Que voulez-vous dire, Milord? Je vais appeler tous les gens de la maison. Je n'ai d'autre crainte, madame, que celle que de vous perdre, et je suis résolu à prévenir ce malheur par le seul moyen que m'indique le désespoir. » Il la prit alors dans ses bras, ce qui lui fit jeter des cris si violents qu'elle aurait alarmé toute la maison et obtenu infailliblement du secours si Lady Bellaston n'eût pris soin d'éloigner tous ceux qui auraient pu l'entendre. Mais il arriva un événement plus heureux pour la pauvre Sophie. Un autre bruit se fit alors entendre, qui couvrit presque entièrement les cris qu'elle jetait. Toute la maison retentit en un moment de « Où est-elle? Le diable m'emporte si je ne parviens pas à la tirer de son chenil. Montrez-moi sa chambre, vous dis-je. Où est ma fille? Je sais qu'elle est dans la maison, et je veux la voir. Est-elle là-haut, Montrez-moi où elle est. » À ces derniers mots, la porte s'ouvrit précipitamment et M. Weston entra, accompagné du curé de sa paroisse et suivi d'une troupe de braves de profession. Combien fallait-il donc que la situation de la pauvre Sophie fût misérable pour qu'elle pût entendre avec plaisir la voix de son père en fureur? Ce fut cependant ce qui arriva, et cet événement si heureux pour elle était peut-être le seul sur la terre qui pût la préserver du danger de perdre pour jamais le repos et le bonheur. Sophie, malgré son effroi, reconnut la voix de son père, et Lord Fellamar, malgré sa passion, entendit celle de la raison, qui lui démontrait de la manière la moins équivoque qu'il n'était plus temps de mettre à exécution son infâme dessein. Dès qu'il eut entendu la voix de plus près, il ne tarda pas à comprendre que c'était celle de M. Weston, car celui-ci avait au milieu de ses cris fait entendre plus d'une fois « ma fille », et Sophie, en se débattant, appelait son père à son secours. Il crut donc convenable d'abandonner sa proie, après avoir dérangé seulement son fichu, et laissé sur son col charmant l'impression brutale de ses baisers. Si l'imagination du lecteur ne me seconde pas un peu, je ne serai jamais en état de lui peindre la situation de ces deux personnages au moment où M. Weston entra dans la chambre. Sophie, pâle et tremblante, dans un fauteuil, en désordre, hors d'haleine, lançant des regards d'indignation sur Lord Fellamar, et encore plus satisfaite qu'effrayée de l'arrivée de son père. D'un autre côté, Milord assis près d'elle, sa perruque pendante sur une de ses épaules, le reste de sa toilette fort dérangé. D'ailleurs surpris, effrayé, et non moins inquiet que confus. Quant à M. Weston, il se trouvait alors au pouvoir d'un ennemi qui poursuit fréquemment et manque rarement d'atteindre la plupart des gentilshommes campagnards de ce royaume. Littéralement parlant, il était ivre. Ce qui, joint à son caractère naturellement impétueux, ne pouvait produire d'autre effet que de le faire courir sur le champ à sa fille, qu'il accabla des plus grossières injures. Il l'aurait même probablement frappé si le curé ne se fût mis entre elle et lui, en lui disant « Au nom du ciel, monsieur, songez que vous êtes dans la maison d'une dame de qualité. Permettez-moi de vous conjurer de calmer votre colère. Vous devriez être au contraire pleinement satisfait d'avoir retrouvé votre fille. Quant à la vengeance, elle ne vous appartient point. J'aperçois une profonde contrition sur le visage de la jeune personne. Je suis assuré que si vous lui pardonnez, elle se repentira de toutes ses fautes passées et rentrera dans le devoir. » La force des bras du curé avait d'abord été plus utile que la force de sa rhétorique. Cependant, ces derniers mots produisirent quelque effet. Et M. Weston répondit « Je lui pardonnerai si elle veut l'épouser. Si tu veux l'épouser, Sophie, je te pardonnerai tout. Pourquoi ne parles-tu pas ? Veux-tu l'épouser ? Par le diable, veux-tu l'épouser ? Pourquoi ne répond-elle pas ? Y a-t-il jamais eu un animal plus obstiné ? Permettez-moi de vous supplier de vous modérer un peu plus, dit le curé. Vous effrayez la jeune personne, au point que vous lui ôtez tout pouvoir de parler. Que le diable t'emporte, répondit Weston. Tu prends donc son parti ? Ah, tu prends son parti, un beau curé, vraiment, qui se met du côté d'un enfant désobéissant. Oui, oui, je te donnerai un bénéfice, compte-y. J'en donnerai plutôt un au diable. Je vous demande humblement pardon, dit le curé. Je vous assure que ce n'était pas là mon intention. Lady Bellaston entra en ce moment dans la chambre et vint à M. Weston, qui ne la vit pas plus tôt que, bien résolu de suivre les instructions de sa sœur, il lui fit un salut très poli, quoique très provincial, et lui débita quelques-uns de ses plus beaux compliments. Puis il recommença ses plaintes, et lui dit « Voilà, milady, ma cousine, l'enfant du monde le plus désobéissant. Elle soupire après un misérable qui n'a pas le sol, et elle ne veut pas épouser l'un des meilleurs partis de toute l'Angleterre que nous lui avons destiné. » « En vérité, cousin Weston, répondit milady, je suis convaincu que vous faites tort à ma cousine. Je suis sûr qu'elle a plus de jugement, et je suis persuadé qu'elle ne refusera pas ce qu'elle doit trouver si avantageux pour elle. » Lady Bellaston faisait là une méprise volontaire, car elle savait bien de qui M. Weston parlait, quoique peut-être elle crût qu'il accepterait sans difficulté les propositions de Milord. Entendez-vous, dit Weston à sa fille, ce que Milady vient de vous dire? Toute la famille est pour ce mariage. Allons, Sophie, soyez une bonne fille. Soyez obéissante et rendez votre père heureux. Si ma mort peut vous rendre heureux, monsieur, répondit Sophie, vous le serez bientôt. C'est un mensonge, Sophie. C'est un infernal mensonge, et vous le savez bien, dit Weston. En effet, Miss Weston, dit Lady Bellaston, vous offensez votre père. Il n'a autre chose en vue dans cette union que votre intérêt. Et tous vos amis doivent reconnaître, ainsi que moi, le très grand honneur que ce mariage fera rejaillir sur toute votre famille. Oui, sur toute votre famille, dit Weston. D'ailleurs, la proposition ne vient pas de moi. Elle sait que c'est sa tante qui me l'a faite la première. Allons, Sophie, je vous prie encore d'être une bonne fille et de me donner votre consentement en présence de votre cousine. Cousine, dit Milady, laissez-moi lui donner votre main. C'est maintenant la mode d'abréger le temps. On est dispensé aujourd'hui de faire sa cour. Bah, dit Weston, que signifie le temps? N'auront-ils pas assez de temps pour se faire la cour? On peut très bien se faire la cour après qu'on est marié. Lord Fellamar, parfaitement convaincu que c'était de lui que Lady Bellaston voulait parler, d'autant plus qu'il n'avait jamais entendu dire un mot ni rien soupçonné de Blifil, ne douta pas non plus que ce ne fût aussi de lui que le père parlait. S'avançant donc vers M. Weston, il lui dit « Quoique je n'ai pas, monsieur, l'honneur d'être connu personnellement de vous, comme je vois que mes propositions ont le bonheur d'être acceptées, permettez-moi, monsieur, d'intercéder auprès de vous en faveur de cette jeune personne et de vous prier de ne pas la presser davantage en ce moment. » « Qui, vous, monsieur, intercéder, me prier ?» dit Weston. « À propos de quoi ? Qui diable êtes-vous ? » « Monsieur, je suis Lord Fellamar, répondit-il, et l'heureux mortel à qui j'espère que vous avez fait l'honneur de l'accepter pour gendre. Vous êtes un impertinent, malgré votre habit brodé sur toutes les coutures, reprit Weston. Vous, mon gendre, que le diable vous emporte. Assurément, monsieur, répliqua Milord, j'en supporterai plus de vous que de tout autre homme. Mais je dois vous instruire que je ne suis point accoutumé à entendre de sang-froid un pareil langage. Tant pis pour toi, dit Weston. Ne crois-tu pas que j'ai peur d'un homme comme toi, parce que tu as une broche qui pendille à ton côté? Laisse-la ta broche, et tu verras comme je te montrerai à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Je t'apprendrai à me paupériser, je t'en donnerai sur ta jaquette. C'est fort bien, monsieur, dit Milord, je ne ferai point de bruit devant ces dames. Je sais ce qu'il me reste à faire. Votre humble serviteur, monsieur. Lady Bellaston, votre très obéissant. Milord ne fut pas plus tôt sorti que Lady Bellaston, s'approchant de M. Weston, lui dit « Bonté du ciel, monsieur, qu'avez-vous fait? Vous ne savez pas qui vous avez insulté. C'est un seigneur du premier rang et d'une immense fortune. Il a fait hier à votre fille des propositions que vous accepteriez, j'en suis sûr, avec le plus grand plaisir. » « Répondez pour vous, Milady, ma cousine, dit Weston. Je ne veux avoir rien à démêler avec aucun de vos lords. Ma fille épousera un honnête gentilhomme de province. J'en ai choisi un pour elle, et elle l'épousera. Je suis fâché de tout mon cœur de l'embarras qu'elle vous a causé. » Lady Bellaston fit une réponse polie au sujet du mot « embarras », à quoi M. Weston répondit « Rien de plus obligeant, et j'en ferai tout autant pour vous. » Il est sûr que les parents se doivent cela les uns aux autres. Ainsi, Milady, je vous souhaite le bonsoir. Allons, mademoiselle, il faut que vous veniez avec moi de bonne grâce, ou je vous fais porter dans la voiture. Sophie dit qu'elle l'accompagnerait sans qu'il fût besoin d'employer la force. Mais elle demanda à aller dans une chaise à porteur. N'étant pas en état, dit-elle, d'aller d'une autre manière. Voudriez-vous me persuader, je vous prie, s'écria Weston, que vous ne pouvez aller dans une voiture? L'espérez-vous? Ce serait une jolie chose, en vérité. Non, non, je ne te perdrai pas de vue davantage. Jusqu'à ce que tu sois marié, je te le promets bien. » Sophie lui dit qu'elle voyait bien qu'il était résolu de la faire mourir. « Eh bien, meurs, et que le diable t'emporte, » répondit Weston, « si un bon mari doit te faire mourir. Je ne donnerai pas un seul, pas même deux liards d'un enfant désobéissant. » Il la prit alors avec violence par la main, sur quoi le curé, interposant encore une fois son autorité, le pria d'employer des moyens plus doux. Weston lui répondit par un affreux jurement et lui ordonna de se taire. « Te crois-tu donc en chair ?» lui dit-il. « Quand tu y es monté, je ne m'embarrasse guère de ce que tu y dis. Mais je ne veux pas être gouverné par un prêtre, ni apprendre de toi comment je dois me conduire. Milady, je vous souhaite le bonsoir. Allons, Sophie, sois une bonne fille et tout ira bien. Tu l'épouseras, par le diable, tu l'épouseras. » Mrs. Honora parut au bas de l'escalier, et, après avoir fait une profonde révérence à M. Weston, se mit en devoir d'accompagner sa maîtresse. Mais il la repoussa, en disant « Arrêtez, mademoiselle, arrêtez. Vous n'approcherez plus de chez moi. » « Et quoi ?» dit Sophie. « Voulez-vous m'ôter ma femme de chambre ?»« Oui, mademoiselle, je le veux, » s'écria Weston. « Vous n'avez pas besoin de craindre d'être sans femme de chambre. Je vous en procurerai une autre, et une meilleure que celle-ci. » « Non, non, Sophie, elle ne vous fournira plus le moyen de vous échapper, je vous le promets. » Il emballa alors sa fille et le curé dans le fiacre qu'il avait amené. Il y monta ensuite et ordonna au cocher de le conduire à son logement. Il laissa Sophie tranquille pendant tout le chemin et s'occupa de faire un sermon au curé sur les bonnes mœurs et la manière de se conduire convenablement envers ses supérieurs. Il n'aurait peut-être pas si aisément enlevé sa fille de chez Lady Bellaston si elle avait voulu la retenir. Mais dans le fait, elle était charmée de l'état de réclusion dans lequel Sophie allait se trouver. Et comme son projet avec Lord Fellamar avait été sans succès, elle jouissait d'avance en prévoyant les mesures violentes qui allaient sans doute être prises pour la forcer d'épouser un autre homme que Jones.